I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Mathilde Serrel, Philippe Azoury, Joseph Ghost pour parler ensemble de Ghostin' de Nick Cave and the Bad Seeds, Cry, Cigarette After Sex, No Home Records de Kim Gordon et on rendra hommage à l'écrivain et critique musical Nick Toshies. Nous ouvrons cette émission avec Ghostin'. Nick Cave and the Bad Seeds, disponible sur les plateformes digitales. La sortie physique en CD et vinyle est annoncée pour le 8 novembre, un disque qui se présente en deux parties. Nick Cave précisant que les 8 titres de la première partie sont les enfants et les 3 titres de la deuxième partie, leurs parents. Un nouveau disque de deuil pour l'Australien dont le fils de 15 ans est mort accidentellement. En juillet 2015, on va en parler après avoir écouté Waiting for You.
Through the chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor. Never asked to be freed. Well, sleep now, take as long as you need. 'Cause I'm just waiting for you, waiting for you.
To return.
Nick Cave, Ghost In, et une première impression sur ce disque, Mathilde Serrel.
J'ai pensé à l'année de la pensée magique.
John Didion, 10 points. Philippe Azoury. Ça commence bien.
C'est tout simplement somptueux.
Joseph Ghost.
Je
le même, d'accord.
Non,
on a jamais
non,
dû
non,
vous
non.
faire venir ensemble.
Non, pas du tout. Non, c'est un très très grand disque qui met un certain temps à vous prendre, mais c'est un immense disque.
Ah, vous trouvez, tiens. Commençons par là. Vous n'avez pas été saisi d'emblée.
Si. Ah, bon. Mais ce que je veux dire, pardon, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est un disque. Je trouve que c'est un disque de résistance. C'est-à-dire, c'est un disque qui vous résiste d'abord, parce que c'est un disque extrêmement évident, on l'a dit, c'est un disque extrêmement endeuillé, très triste, très très dur. C'est un disque dans lequel on sent la pensée de Nick Cave qui se développe assez différemment exactement. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire c'est un disque qui vous résiste. Vous ne vous dites pas tiens je vais écouter ça comme ça. Et donc du coup c'est un disque qui nécessite du temps et c'est aussi un disque qui résiste à l'époque, pour moi en tout cas, et c'est aussi un disque dans lequel Nick Cave résiste à beaucoup de choses. Et c'est aussi un disque d'attente dans ce sens-là.
Et nous on a dans la dispute résisté à la tentation de le programmer plus tôt, justement pour lui laisser le temps aussi de mûrir, si je puis dire, dans nos oreilles, puisque on est contraint. C'est vrai que l'actualité nous pousse, les nouveautés. Mais Nick Cave, ça fait quoi, un mois?
Oui, ça fait un mois qu'il est
disponible, trois semaines, un mois, le temps quand même de...
Sur les plateformes. Parce
oui. Sur les plateformes, ce que j'ai dit, ouais. Sur le 8 novembre, ouais. En physique, en CD et vinyle. Mathilde Serrel.
Je suis assez d'accord avec ce sentiment de résistance, quoique je trouve qu'il se livre quand même assez... assez vite, parce que moi j'y retrouve une espèce d'exploration. Je parlais de l'année de la pensée magique de Joan Didion, c'est le livre qu'elle a écrit au moment où son mari s'est effondré à table un soir, sa fille a sombré dans le coma, et elle a essayé de décrire ce pays où vivent les gens qui sont dans le deuil. Et c'est à peu près ça que nous propose, je trouve, Nick Cave, c'est-à-dire de nous emmener dans ce pays avec ses visions, ses paysages, ses insomnies, qu'est la vie d'une personne endeuillée qui, comme il l'explique lui-même, est quelqu'un qui devient différent de vous-même. C'est même pas une petite transformation. C'est littéralement comme si la personne que vous aviez devant le miroir était tout à fait une autre. À part que vous avez la même enveloppe corporelle. C'est comme ça qu'il décrit le deuil, et je trouve que de s'être appliqué sur le plan musical à nous y emmener, une fois qu'on a compris qu'on était dans ce fil-là, moi je le suis complètement, et je suis en fait les paysages cérébraux qui va dessiner. Je trouve que la voix est extrêmement touchante de maîtrise, là où on aurait pu la retrouver une forme de pathos. Les aigus s'arrêtent toujours avant que ce soit, si vous voulez, gênant dans la larmoyance. Il y a un travail presque religieux dans la liturgie, dans les orgues, dans les chœurs, qui fait aussi qu'il y a une sorte de travail comme ça.
Il n'y a pas de percussion du tout.
De requiem.
On n'a pas dit encore.
Oui.
Aucune percussion.
Aucune percussion. Il y a un petit peu de guitare, un travail de chœur, un travail d'orgue, et puis aussi des matières comme ça électroniques qui ressemblent un petit peu à la pochette de l'album, qui est une sorte de monde merveilleux, étrange, où vont boire divers animaux à une fontaine comme ça, un petit peu pastel, donc ça pourrait paraître joyeux. Et c'est ça qui est assez beau aussi, c'est que c'est un disque de deuil où il se laisse aller dans la rêverie du retour potentiel de son fils. Donc c'est pas que des séquences simplement où, en effet, hein, il va quand même nous expliquer qu'il en appelle à son fils tous les jours et qu'il n'endort pas de la nuit, si je résume. Mais il y a aussi des merveilleuses rêveries du retour possible. Et donc je trouve que c'est cet équilibre entre un paysage noir, on va dire, et un paysage lumineux qui se livre une fois qu'on comprend, qu'on chemine avec lui dans le deuil et la précision de ce qu'est le deuil.
Philippe Azoury, sur ce disque de Nick Cave and the Bad Seeds.
Non, j'ai envie d'embrayer un peu sur ce que disait Joseph. La toute première écoute, lorsque le vendredi soir où il est sorti, il y a 3 semaines, 4 semaines, ça, sur un ordinateur, à partir d'un lien YouTube, j'ai eu du mal à trouver ma place, quoi, à l'intérieur de ce disque-là.
alors que je suis plutôt, enfin, ça fait 35 ans que je suis un peu contaminé, enfin voilà, par pour le meilleur ou pour le pire, parce que ce que propose Nick Cave, quoi. Et j'ai eu peur, je trouvais très beau évidemment, mais sans forcément réussir à y participer. J'avais l'impression que le disque donnait presque, allait presque vers un chemin un peu impudique, là où Skeleton Freak était le précédent disque, qui est un disque admirable, mais qui est un disque devant lequel on peut reculer au moment de le réécouter. Enfin, moi, je l'ai beaucoup écouté à la sortie, j'ai un peu hésité après, alors que c'est un disque somptueux, mais c'est un disque qui est inséparable, disons, de son contexte de deuil. J'ai un peu voyagé pendant les 15 jours qui ont passé, je me suis obtenu un peu éloigné de Ghostin, j'ai replongé là depuis les 4 ou 5 derniers jours, un peu pour la dispute, un peu parce que j'attendais le physique en fait. Et j'attendais cette sortie étrange pendant un mois. Mais je comprends maintenant pourquoi ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, il nous laisse un mois sur des plateformes, sur YouTube, pour comprendre, pour ne pas avoir peur de cet album-là. Et pour finalement faire ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire réviser totalement mon jugement. C'est-à-dire je suis depuis 4 ou 5 jours devant un disque qui, au contraire de Skeleton Tree, est un disque très 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 ouvert. Peut-être qu'il m'a fallu les imaginer tous les deux. Je dis les imaginer, c'est-à-dire lui et Warren Ellis, qui est devenu il a toujours fonctionné en binôme. À un moment, c'était Roland S. Howard, au moment de Barf des Parties. Ensuite, ça a été Blixa Bargeul, au tout début des Bad Seeds. Depuis une dizaine d'années, c'est Warren Ellis qui lui sert vraiment, enfin voilà, de deuxième pilier. Mais j'essaie de les imaginer tous les deux dans un état de, quand même d'émotion très très fort. Essayer de commencer à composer quelque chose autour de ça à Malibu. Le disque, elle m'enregistre à Malibu. Et ça change tout. Enfin, c'est-à-dire qu'on est, et d'un coup, on voit qu'il y a une éclaircie. Il y a un texte très, très beau de Alexis Petridis dans The Guardian qui dit que à quel point finalement, lorsqu'on commence à s'habituer à ce disque-là, à le fréquenter de plus en plus, bien sûr, c'est un disque poignant. Bien sûr, c'est un disque endeuillé. Mais c'est un disque incroyablement, j'allais pas dire solaire, parce que ce serait pas, il faudrait pas exagérer, mais c'est un disque qui a une forme d'optimisme en lui. Et je pense que dans la volonté qu'ils ont eue tous les deux, précisément, on l'a dit, de mettre de côté tout ce qui était de l'ordre de la rythmique, et un peu de basse, il y a plutôt plutôt que des percussions, on entend des sons comme on pouvait en entendre à l'époque où Blixa Bargeul était là et amenait l'influence d'un Sourzain et d'un Button, c'est-à-dire presque des sons industriels du côté de la batterie, c'est plutôt là-dessus que ça se joue. Et ils ont réussi à composer quelque chose qui est phénoménal, sur la voix notamment. Je pense ça fait à peu près 30 ans qu'il n'a pas chanté aussi bien. Il y a des endroits où il chante aussi bien que sur First Born Is Dead, que sur Thunder Prey, notamment à la fin du disque, les trois derniers morceaux. Il fait des choses complètement incroyables. Mathilde parlait des aigus, c'est saisissant sur le tout premier morceau où il part comme ça sur la sorte d'aigus. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il y a la limite du castrat, ce qui est plutôt la voix de basse de Nick Cave. Et touchait quelque chose qui est finalement ouvert. Enfin, c'est un disque, là, ça y est, je suis pris, je pense qu'on est pour, Joseph le disait, on en a pour un moment. Pour le coup, on sait que dans 6 mois, 7 mois, enfin, ça fait partie des très très grands disques, comme ça, on sera là toujours à essayer de chercher, de comprendre.
Mais c'est là que la comparaison, je pense, avec John Didion est particulièrement juste, que vous faisiez, Mathis Herel, parce que ce livre de deuil de John Didion, c'est un livre qui est aussi, d'une certaine façon, solaire, lumineux, qui dit, on peut quand même continuer à vivre, alors dans un rapport aux morts qui est très particulier, il est particulier pour chacun d'entre nous dans la vie, mais il y a quand même quelque chose, et cette pochette, elle est pas si à côté de cela. C'est quand même, il y a de la lumière, c'est doux, quelque chose de beau. On entre peut-être dans un royaume où il y a des liens qui se font entre vivants et morts, mais il faut pas avoir peur. Enfin, il y a quand même quelque chose comme ça, et ça, c'est quand même évidemment un message qui fait du bien, tout simplement. Joseph Gosn.
Oui, c'est un. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre un disque sur la distance, c'est-à-dire la distance avec la personne qui n'est plus là, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'il y a eu, il y a aussi un musicien des Bad Seeds qui est mort aussi dans l'intervalle entre les deux disques, Conway Savage. Et donc il y a beaucoup de ce manque, de cette attente et de la distance qu'on met et de la façon d'occuper cet espace-là. Et ça m'a fait penser, alors d'habitude. Parce que j'écoute aussi Nick Cave depuis très très longtemps, et c'est vrai que j'ai aussi pensé à l'album qui s'appelait The First Born Is Dead, dans cette façon très très rugueuse de prendre les choses de manière immédiate et frontale. Et sur The First Born Is Dead, il y avait beaucoup ça, notamment dans les chansons les plus violentes comme ça. Alors que là la violence elle est ailleurs, mais il y a quelque chose de très on sent qu'il cherche une nouvelle voie. Étrangement, ça m'a fait penser par certains moments, mais vraiment de manière très comme ça, très rapide, à Sun Kilmoon, à Marc Kozelek, la façon dont Marc Kozelek peut poser sa voix parfois pour raconter une histoire et dérouler une narration, notamment dans l'utilisation de certains mots, certaines façons de placer les contextes. Et là, il y a ça dans ce disque, c'est-à-dire qu'il est il y a une narration qui se met en place, il y a toute une histoire qui se déroule et on est pris d'un morceau à l'autre. Et ce qui me renvoie immédiatement à la musique derrière, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi deux niveaux et que le disque pourrait tout à fait s'écouter comme un disque instrumental. Et quand on se dit ça, tiens, on découvre aussi une deuxième couche. Et ce serait un très très beau disque quasiment de musique expérimentale ou de musique ambiante même, parce qu'effectivement il y a ces bruits qui sont beaucoup de bruits de synthétiseurs, de choses qui tournent comme ça un peu en boucle et qui vous laissent dériver un peu, qui laissent la pensée dériver, et du coup qui accompagnent bien la façon dont Nick Cave pose un peu toute sa narration. Ensuite, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que c'est un album qui est double. Il y a 8 morceaux, puis 3. Les 8 morceaux, c'est exactement le nombre de morceaux qu'il y avait sur l'album précédent. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça de que la gémellité, elle se fait déjà à ce niveau-là, mais qu'ensuite, l'autre disque, lui, il permet de s'échapper et d'aller vers autre chose. Et les morceaux sur ce deuxième disque, alors que les 8 premiers sont plutôt tous du même ordre, c'est-à-dire des morceaux de 4 minutes, 5 minutes, etc. Là, on est dans des morceaux de 12 minutes. Deux morceaux de 12 minutes, un qui est un peu moins long, et où l'instrumentation devient autre chose, où il y a des cordes, qu'elles soient synthétiques ou pas, il y a quelque chose comme ça de l'idée de l'échapper. Et le disque se termine sur des paroles où il dit « peace of mind », je cherche la tranquillité de l'esprit, je ne sais pas si elle vient, mais je cherche ça. Et il y a, et c'est là où on voit le côté effectivement solaire, et où tout ça peut aboutir à quelque chose d'un peu plus... je ne sais pas si c'est apaisé, mais en tout cas de plus...
ça permet de continuer à vivre.
Ça permet de continuer quelque chose. Ouais. Ça permet de continuer quelque chose et la voie est tracée.
Mathilde Sérène.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mantra en fait à l'intérieur du disque, comme parfois peut l'être aussi la musique ambiante ou la musique répétitive. Hein. C'est quelque chose de l'ordre de la méditation intérieure qui peut aider, les gens qui écoutent le disque à entrer dans cette philosophie de face à la mort et dans cette philosophie existentielle que propose Nick Cave. Et quand il dit Everything is as distant as stars. Tout est aussi lointain que les étoiles. J'ai l'impression que ça aussi, c'est un précepte philosophique qu'il faut avoir en tête quand on écoute l'album. C'est-à-dire que, comme le disait Philippe, c'est un astre et on peut tenter de s'en approcher, mais on sera toujours très très loin du cœur de la vérité du disque. Et de la même manière, il y a des êtres qui nous quittent ou il y a des choses dans la vie qui seront as distant as stars, aussi loin que les étoiles. Cette espèce, je trouve, de sagesse, de laisser des désastres continuer à nous entourer sans qu'on les comprenne ou sans qu'on les touche, qui nous transmet. Il arrive à le faire, en effet, musicalement. Et dans les textes, on retrouve le Nick Cave des Murder Ballads, un petit peu, c'est-à-dire celui, en effet, de la narration. Sauf que cette fois-ci, il n'y a plus le plaisir noir de ces crimes, mais c'est renversé du côté de la victime. Moi, je trouve que c'est aussi un très beau renversement de son propre chant et de sa propre écriture.
Puis ça a quand même ce titre. Il me semble que c'est un néologisme. Il faudrait quand même vérifier. Ghosting, c'est quand même magnifique. Une sorte de fantôme de l'adolescence, oui, un fantôme adolescent. Ouais. Il faut savoir comment on peut l'entendre. Ghosting. Il me semble que c'est un néologisme. Mais c'est une des très belles choses de ce disque. Philippe Azoury, encore un mot.
J'ai l'impression qu'il, Joseph le disait, enfin, les trois derniers morceaux le libère.
Il est père.
Voilà, le libère et lui permet une recherche qui est, je pense que ça ouvre vers quelque chose. Manifestement, le disque, autant le précédent refermé complètement sur une quinzaine d'années où il était parti sur des choses au piano dans lequel il s'était aussi égaré. Donc, à un moment donné, il y avait aussi des choses un peu de l'ordre de l'ennui. Moi aussi, je pense à The First Born Is Dead, je pense à Black Crowkins, par exemple, ce type de morceau dans lequel il dialoguait avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une tension qui est retrouvée. Mais cette tension, elle n'est pas la même. Enfin, pendant les 10 premières années de sa vie, enfin, Nick Cave a globalement chanté, une douleur qui était littéraire, romantique, droguée, adolescente, on l'appellera ce qu'on veut. Aujourd'hui, elle est réelle. Et comment retrouver quelque chose de la... parce qu'il est quand même très, très, conscient qu'il a eu un moment de magie entre 24 et 30 ans où il a aligné 7-8 disques qui sont parmi les plus beaux de l'histoire de, de l'afterpunk. Comment renouer avec ça? Et il renoue avec ça. Enfin, Hollywood qui est le... Enfin, de toute façon, voilà, Ghost In, qui est le 10e morceau, 9e, je ne sais plus. Fireflies et Hollywood sont une trilogie qui ouvre des propositions. On a l'impression qu'il revient à la fois à ce qu'il pouvait faire avec des Bad Seeds au début, quasiment industriel, mais avec ces drames au milieu, parce qu'il y en a plusieurs, l'âge aussi, et quelque chose qui est d'une tension retrouvée. Donc c'est vraiment c'est assez éblouissant.
Ghost In, Nick Cave and the Bad Seeds, on peut l'écouter sur les plateformes musicales. La version physique arrive dans une dizaine de jours, le 8 novembre. Je suis très curieux, mais pas tant que ça finalement. Il y a un concert prévu à l'Accord Hotel Arena à Paris le 14 juin. Et là, je me dis, enfin, ou alors ils jouent d'autres choses, ils jouent Jubilee Street et
sur les dernières tournées, ils jouent autre chose que le. Oui. Non, c'était pas jouable, quoi.
Il y aura peut-être un rappel, enfin quelque chose de la deuxième partie du disque pour conclure peut-être, je ne sais pas, mais
faudrait inventer un dispositif, un moment
à deux aussi avec Warren Ellis, avec 3-4 morceaux du disque et ensuite aligner les.
Curieux,
ça va être.
Ouais, ça va être particulier en tout cas. Ça sera donc le 14 juin.
Peut-être préciser juste une chose, parce que ça se sait assez peu en France, mais Nickel qui n'a pas été pas un grand communicant, ni avec les. Enfin, c'est un peu la bête noire des journalistes, tête à claque comme ça, qui refuse de faire un peu la gueule, tient depuis un an un sorte de blog incroyable qui s'appelle Red and Flies, dans lequel il répond à des questions de fans, quelles qu'elles soient, y compris sur, par exemple, sa séparation avec PJ Harvey, choses comme ça. Et il y répond à la fois avec beaucoup d'humour, c'est écrit, donc d'un point de vue littéraire, c'est très très beau. Ça participe aussi, je crois, de cette façon pour lui de survivre, c'est-à-dire de retrouver un lien immédiat et direct. D'ailleurs, c'est sur Ghost In Records, il n'y a plus de maison de disques. De retrouver un lien immédiat et direct avec le dehors. On va dire.
À suivre dans la dispute, Cigarette After Sex, Kim Gordon et Nick Toshes.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec Cry, le nouveau disque de Cigarette After Sex. C'est le deuxième album du groupe mené par Greg Gonzalez, à la voix gender fluide et aux musiques et aux guitares éthérées. Enregistré de nuit, nous dit-on, dans un manoir de l'île de Majorque. Je fais défiler les chansons dont on va parler pour être mise en vente et peut-être numéro un des ventes en musicothérapie. C'est une question qu'on va vous poser. On écoute la chanson qui donne son titre à l'album, Cry.
I'm someday, but I can't help the way I feel. Wish I was good, wish that I could.
Premier sentiment sur ce deuxième album de Cigarette After Sex, Philippe Azoury.
Vous avez dit que c'était enregistré à Majorque. Qu'est-ce que Majorque a fait pour mériter ça?
Bon, Joseph Gosne.
Oui, cry, je pleure d'ennui pour ne pas dire pire.
Mathilde Sérène.
De l'inconsistance des nuages.
Bon, voilà qui promet.
Et de la poésie.
Alors. Je sens que la séquence ne va pas être très longue, mais quand même, Philippe Azoury, pour développer un peu.
Pourquoi moi?
Parce que c'est comme ça, c'est prévu, c'est ordonné, c'est rangé.
Je n'étais pas au courant. Non, je connaissais mal. Je suis à peu près comme tout le monde, je pense que ce groupe n'existe pas. Ce groupe est un virus qu'on nous a mis sur YouTube, et quand vous avez fini d'arrêter d'écouter ce que vous aviez choisi d'écouter, parce que vous êtes en train de faire la vaisselle, ou faites l'amour avec la personne que vous aimez, ou quoi que ce soit, vient l'album de Cigarette After Sex. Alors le premier, je pense qu'il y a eu des millions de vues pour ça par des gens qui ne le voulaient pas.
Bon, alors déjà, je m'assure, j'en faux, parce que Christophe Comte et moi-même étions tombés amoureux de ce premier album. Je précise, je fais l'historique.
Donc je ne l'avais écouté que de cette oreille, comme ça, un peu distraite de celui qui ne veut pas, mais qui a la flemme de se lever pour changer. Donc celui-ci, je l'ai écouté pour vous. Preuve de ma dévotion absolue, Arnaud.
Votre sens du travail, du devoir.
Et mon sens du travail et du devoir, que personne n'a jamais contesté.
Jamais.
Voilà. C'est une des choses les plus affligeantes que j'ai jamais écoutées de ma vie. Non. Enfin, je connais suffisamment Joseph qui est en face de moi pour le savoir. Quand on a été biberonné à Mazistar, à Slowdive, c'est-à-dire quand même des choses à des groupes de début des années 90 qui proposaient ce qu'on a appelé aujourd'hui une dream pop, mais qui à l'époque était une sorte de shoegaze encore plus évanescent qu'évanescent, et qu'on est en face.
C'est pas du tout évanescent, ce dive, mais bon.
Passons. Oh, si.
Non, du tout.
Il y avait deux.
Mojave
3. Quand on est face à ce disque qui est finalement à la musique, ce que je sais pas, ce qu'un plan cul Tinder est à l'amour, c'est vraiment un truc complètement programmé dans lequel rien ne se passe jamais. C'est une autoroute qui délie des mélodies préconçues avec cette voix dont on apprend encore toujours, encore quelle c'est celle d'un garçon, Greg Gonzalez, or qu'on croit si on est une oreille distraite que c'est une fille parce que cette voix est androgyne, mais qui surexagère le I'm so deep, comme ça, vraiment, je suis tellement profond et tellement. Enfin, mais à part que cette émotion-là n'existe pas, elle est nulle part. Elle n'est pas dans la composition, elle n'est pas dans la production. Elle est la version exagérée de. Du disque de ça y est, j'ai un trou qui est sorti qui était qu'on a attendu depuis 10 ans aussi sur Italians Do It Better qui est sorti il y a 3 semaines dans un
Chromatics
de Chromatics qui est à peu près sur le même problème mais Chromatics
on a gagné quoi
ouais Chromatics a quand même un peu plus
un album de Cigarette After Sex
voilà enfin je pense que c'est ils sont tous les deux sur le même problème, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur une autoroute de composition à ce point sans accident, comment pouvoir proposer quelque chose qui tienne du sentiment quand on est soi-disant un groupe sentimental. Moi, je n'ai pas la solution face à ce disque dans lequel je m'abîme. Enfin, voilà.
Joseph Gosselin.
Il y a plusieurs problèmes avec ce disque. Le premier et le plus immédiat, c'est que les morceaux sont à peu près tous les mêmes. Vous faites le test. J'ai fait le test tout à l'heure dans notre rédaction. Tout le monde, tous les gens qui l'avaient écouté, tout le monde a dit, mais c'est exactement la même chose. Il y a quelque chose de très, très, très ennuyant au fil des disques, et aucun morceau ne tient quoi que ce soit, c'est-à-dire que ça passe très très vite et la voix, moi je trouve que c'est un faux problème parce que quelle que soit la voix, quel que soit le genre qui chante, il y a vraiment rien qui passe. Le deuxième problème, c'est effectivement appeler ça de la dream pop ou du shoegaze ou ce que vous voulez, mais la comparaison elle est immédiate avec évidemment les groupes qui ont précédé ou qui étaient là il y a 20 ans. Slowdive, Mazistar, etc. Ce qui se passait dans ces groupes-là, c'était de la tension entre les gens qui faisaient la musique. Il suffit d'avoir vu Mazistar, ou d'écouter les disques, ou même d'avoir vu Mazistar sur scène une fois, pour comprendre qu'il y avait une tension sexuelle, amoureuse, entre le guitariste et la chanteuse. Et ça tenait à ça. Slowdive, c'est pareil. C'est cette histoire-là, et c'est, en 3 albums, la déliquescence de cette histoire et la façon dont la violence de l'histoire entre ces personnages-là aboutit à des disques et comment ils les traduisaient à l'époque avec les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire des pédales et des guitares poussées un peu fort. Là, on est dans du post ressassement de tout ça, avec quand même une façon de raconter les histoires qui est assez affligeante. Quand on écoute bien les paroles, et ça a été pointé par le site Pitchfork, on est quand même juste dans des histoires de type de drague, mais qui n'ont rien de consistant, ni de blessé, ni de quoi que ce soit qui vous agrippe, qui vous prend. Donc je suis très très à distance et très gêné par ce disque.
Allez, Mathilde Serrel, pour conclure cette séquence, hein, parce que c'est quand même un mystère, je le rappelle, hein, vraiment j'assume parfaitement d'avoir, et je continuerai certainement à écouter le premier album de Cigarette After Sex, mais je comprends pas pourquoi le miracle a vraiment pour moi a opéré sur le premier, et je le dis sans embâche, le deuxième effectivement me semble un tunnel d'inintérêt, et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mathilde Serrel.
Je sais pas moi ce qui s'est passé, je vais pas pouvoir expliquer, je suis d'accord, moi j'ai été séduite par le premier album de Cigarette After Sex. Je parlais de l'inconsistance des nuages, c'est une caricature en fait de ce qui avait peut-être pu nous séduire sur le premier. C'est comme si vous voyez, il y a la volute de fumée où il y a le nuage qui s'étire dans le ciel jusqu'à sa disparition. Pour moi, je vois ça, je vois une sorte de produit évanescent qui miraculeusement nous avait séduit une première fois et qui là s'étiole dans le ciel jusqu'à disparaître. C'est vraiment une inconsistance, alors que je pense que le projet de Cigarette After Sex, c'est un projet cinématique au départ pour le premier album qui est dans l'ordre du cinéma méditatif. Je pense que ça va chercher, même si ça n'atteint pas le niveau, mais chez Apicia Pombera c'était cool, chez Usha Ossian, je pense que c'est ça. Non mais le point de départ du projet de Cigarette After Sex, c'est vrai, vous allez dans la lenteur comme ça des images, dans la lenteur des plans, et effectivement avec presque la sensation de scruter le ciel pendant des heures, vous endormir aussi un petit peu pendant le film, comme disait Godard, et puis vous réveiller et reprendre la discussion. Je pense qu'il y a ce projet, on va dire, De Cigarette After Sex, et après il y a l'exécution. C'est vrai que voilà, malheureusement c'est certainement très bien intentionné, et je pense qu'on n'a pas affaire à des gens stupides, mais malheureusement ça ne produit que des volutes sans consistance, et presque, ce qui est terrible avec les paroles, non seulement ça se ressemble, mais c'est qu'en plus il y a un petit côté, ça pourrait être remplacé par Nya Nya Nya. Je sais pas si vous avez déjà fait l'exercice. Non mais moi j'ai fait l'essai chez moi. Nya 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 Nya. Et c'est ça. Et en fait, c'est un disque qui fait. Et en effet, bon.
Vous avez une voix trop grave.
On n'a pas forcément besoin le lead. De ça. J'ajoute un seul truc, c'est que pour travailler, c'est assez agréable.
Ça ne dérange pas.
Ça ne dérange pas la pensée.
Bon, c'est horrible. Bon, on va s'arrêter là pour ce disque de Cigarette After Sex chez Partisan Records. Il s'appelle Cry. Notez que vous pourrez aller les écouter en concert le 7 novembre à Bruxelles, le 8 novembre à l'Olympia à Paris. C'est l'heure habituelle du coup de cœur dans cette émission, et ce soir, ça nous permet de rendre hommage à l'écrivain et critique musical Nick Toshes. Et vu l'heure, vu qu'il y a l'album de Kim Gordon après dont nous voulons parler, un tour de table, très simple pour dire, très simple, pourquoi il faut lire aujourd'hui, parlons au présent, Nick Toshes. Joseph Gosselin.
Moi je dirais qu'il faut lire Nick Toshes parce que c'est... Il faut le lire de façon très contemporaine parce que c'est quelqu'un qui est toujours allé jusqu'au bout de ses sujets et qui les épuisait totalement. Vous pouvez lire les livres qui sont disponibles, ces livres sur le rock. Là, j'ai avec moi le premier qui s'appelle Country, qui explore ça comme personne d'autre ne l'a fait. Mais vous pouvez aussi lire, par exemple, j'ai relu ou lu d'ailleurs certains de ses articles sur le site américain de Vanity Fair. Il y a un article qui est extraordinaire, qui date de 2007, sur le marché aux poissons à Tokyo. Et il explore ça sur la longueur, et tout est là. Vous vivez là-dedans. Il fait des rapports avec Little Tokyo à New York, etc. Et c'est vraiment cette écriture-là, au-delà du côté journaliste rock, etc., etc. C'est vraiment ça que j'aime chez lui.
Le livre à conseiller pour commencer, ou un recueil évidemment parce qu'il y en a plusieurs.
Moi, j'adore Dino, qui est sa biographie de Dean Martin, qui est bien pour commencer. Qui est un livre que j'ai même offert à mon père, vous voyez. Donc, on peut commencer par là.
Très bien. Mathilde Serrel, pourquoi il faut lire Nick Toshes?
Moi, il y a deux Nick. Il y a Nick Cohn et Nick Toshes. Donc Nick Cohn, c'est un critique rock britannique qui est aussi publié chez l'Olivier d'excellents romans, et Nick Toshes, donc dans la collection chez Alia. Voilà, vous pouvez vous faire un intégral de Nick Toshes. C'est deux personnalités qui sont fondamentalement des romanciers et des rock critiques. Ce qui est agréable, c'est qu'on se fait une idée du rock critique qui est peut-être un petit peu dévoyé par le Gonzo de Hunter H. Thompson, par Lester Banks ou par cette idée du sex-drugs rock'n'roll. Alors que dans les deux démarches, là, c'est des démarches beaucoup plus systémiques, presque politique, parce que ce sont deux rock critiques écrivains qui questionnent le monde et comment on en est arrivé à ce monde. Et je pense que Country, notamment, qu'a amené Joseph Cohn, c'est les racines de la country, avec toujours ce soin de faire découvrir les invisibilisés de l'histoire du rock. Et c'est assez intéressant de voir comment Nick Cohn a révélé des petits noms qui n'étaient pas du tout prévus dans la grande histoire. Donc il y a un travail aussi d'historien qui est très intéressant, et surtout cette idée d'être ancré dans le passé et de comprendre comment est-ce qu'on en arrive à ces formes. Et de je crois qu'il avait un de son dernier, c'était sur Tibère. Moi, c'est ça que je trouve formidable. C'est quelqu'un qui a cette vision en perspective, qui est d'aller prendre le temps un peu comme un élastique. On s'ancre dans le passé, on voit d'où on vient, et ensuite on se propulse. Et donc c'est l'inverse d'une consommation hystérisée, instantanéisée qu'on peut avoir aujourd'hui.
Enfin, Philippe Azori, même question. Pourquoi lire Nick Toschies aujourd'hui?
En relisant, pareil, parce qu'on a appris la mort la semaine dernière, spontanément, j'ai repris les livres et j'étais frappé par quelque chose qui ne m'avait pas frappé comme ça à ce point-là il y a 20 ans, lorsque j'avais commencé à être un peu fasciné par lui. C'est son souci de la précision, c'est-à-dire le nom d'une rue, qui est presque, j'étais en train de lire le Modiano en même temps, et il y a quelque chose d'un Modiano rock, si tant est que ce soit possible. Moi, je l'ai un peu fréquenté il y a 20 ans. J'ai un souvenir j'étais très surpris parce qu'il est relativement très jeune. Je pense qu'il a 60, il est mort à 69, 70 ans. Ce qui veut dire qu'il y a 20,
à 3 jours de ses 70 ans.
Donc il y a 20 ans, il avait
50.
50. Il avait globalement l'âge que j'ai aujourd'hui. Je me souviens d'un personnage qui semblait venir, ne serait-ce que par sa gueule, ce côté un peu Chet Baker cassé, la façon dont il était vêtu, de venir des années, j'ai l'impression d'un personnage d'une fiction des années 50. La fiction s'invitait à vous. Et ça a été des jours, je me souviens dans Paris où il fallait, on peut le dire maintenant, enfin, il était opiumane, il s'en est jamais caché. Il avait écrit un très très beau livre qui s'appelle Confession d'un chasseur d'opium, qui est édité chez Alia. C'est de jour, il fallait lui trouver de l'opium en compagnie d'un personnage comme ça, androgyne, avec un bonnet dont j'ai dû comprendre 2 heures après qu'il s'agissait de Patti Smith.
Merci. C'est un peu son double.
C'était très très beau. Enfin, voilà. Et de marche dans Paris où il connaissait chaque rue, etc., dans le 13e arrondissement, il fallait trouver ça. Et il était un personnage totalement laconique, avec un humour très très cassant, mais pas plus du tout intéressé par le rock et tout ça, juste intéressé par des maniaqueries. Et ces maniaqueries, c'est ça, enfin, genre la grandeur de la rock critique, c'est pas d'avoir défendu tel ou tel bon disque, etc. C'est d'avoir été maniaque jusqu'à l'obsession d'une note de bas de bas de page au dos d'une pochette, d'un bassiste, du type qui tourne les boutons dans tel studio. Et il avait fait ça d'une vie. Il y a un livre à conseiller, en plus de ce que vous avez dit, c'est Réserve ta dernière danse pour Satan, qui était aussi un texte pour Vanity Fair, comme celui sur l'opium. Quand on les relit, on se dit waouh, il y a du travail, voilà, il y a du niveau. C'est bien, ça donne envie. Et c'est chez Alia aussi. C'est des textes courts, mais ils sont incroyablement denses. C'est des labyrinthes.
Lisez et relisez ou relisez Nick Toschies.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier disque à notre sommaire ce soir, c'est No Home Record de Kim Gordon chez Matador. Après le premier album solo de Kazuma Kino, la chanteuse de Blonde Redhead, on a le premier album solo de Kim Gordon, l'ex-moitié des Sonic Youth. Comme quoi la valeur peut attendre le nombre des années dans les deux cas, même si les cas sont pas comparables, puisque ça fait quand même 8 ans que Sonic Youth c'est fini. On écoute Paprika Pony.
I write back for some. balloon. You take a bite out of the apple. First. You take a bite.
Peut-être que celles et ceux qui n'avaient pas encore jeté une oreille sur No Home Record de Kim Gordon ont été surpris par ce titre que nous venons d'entendre. C'est bien pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs. Premier regard sur ce disque, Joseph Gosn.
Ben, c'est en réécoutant ce morceau, j'ai l'impression que ce disque, c'est un peu la recherche du temps perdu. J'exagère peut-être un peu, mais il y a un peu de ça en fait dans cet album. Vous disiez tout à l'heure que c'est le premier album solo de Kim Gordon. C'est le premier album sous son nom. Elle en a fait plusieurs en dehors de Sonic Youth avec d'autres, etc. Elle a un projet en duo qui s'appelle Bobby Head.
C'est son nom sur la pochette.
Mmh. C'est un disque de chansons, de morceaux. Et quand je dis la recherche du temps perdu, c'est parfois on a l'impression. Moi, je suis pas très étonné par la nature de ces morceaux, parce que quand on réécoute bien les disques de Sonic Youth, les morceaux de Kim Gordon étaient souvent ceux qui étaient les plus cassé ou cassant, ou qui allait chercher un tout petit peu autre chose, notamment dans certaines rythmiques. Il faut se souvenir que c'est quand même elle, c'est avec elle, je crois que c'est sur Goo, qu'ils avaient invité Chuck D de Public Enemy. Donc il y avait déjà cette envie d'intégrer quelque chose de différent. Enfin, ils avaient toujours eu ça en eux, ce côté un peu hip-hop, etc. Et donc, elle est tout à fait dans le territoire qui était le sien, mais elle explore aussi d'autres choses, et notamment quand je dis la recherche du temps perdu, c'est aussi que ce disque a été fait en Californie, qui est en fait sa région d'origine, puisque on associe beaucoup Sonic Youth à New York, évidemment, puisqu'ils ont été là-bas, mais Kim Gordon, elle, est de Californie, et elle a grandi un peu là-bas, et donc elle est retournée là-bas à Los Angeles pour faire cet album. Et pour elle, Los Angeles, parce que je l'ai rencontré, on en a un peu parlé, et pour elle, Los Angeles était un territoire d'expérimentation, d'exploration, et qui lui permettait de regarder le monde un peu différemment. Et donc, le disque raconte ça. Il raconte à la fois le Los Angeles de Airbnb, c'est-à-dire ce Los Angeles qui est devenu totalement un territoire de transition pour tous les touristes, etc. Mais qui est aussi le Los Angeles des laissés pour compte, ce qu'elle nous disait. En fait, toutes ces chansons, elles parlent aussi des gens qui sont sous les ponts, des homeless, qu'on ne veut pas regarder. Donc, il y a beaucoup ça dans ce disque, d'où aussi le No Home. No Home, c'est on ne sait pas, elle ne sait pas exactement où elle est. Et puis il y a aussi, je trouve, dans ce disque-là, une très belle écriture, et une écriture en fait qu'elle est à peu près la seule à avoir gardée de Sonic Youth, je trouve, puisque tous les autres, ce sont bon, Steve Shelley continue à faire le batteur avec l'un ou l'autre. Lee Ranaldo continue à faire ce qu'il a toujours fait. Il a essayé quelques disques un peu de chansons, mais qui à mon sens sont pas aussi intéressants que le reste. Et Thurston, c'est un peu perdu, je crois qu'on est d'accord pour dire ça, dans des choses très expérimentales, qui faisaient un peu son sel à l'époque, mais qui font un peu moins le sel, vu qu'il n'y a plus il y a plus Sonic Youth à côté. Mais elle, là, elle s'est vraiment concentrée sur quelque chose d'assez fort. Toutes les chansons sont fortes, c'est assez punk, en fait. Il y a beaucoup d'énergie. Et ce morceau-là est moi, un de mes préférés, mais c'est peut-être pas le plus représentatif de cette violence-là.
Ah oui, non, après, c'est certain, mais elle est...
Mais c'est tendu.
Jacente, quand même.
Ouais.
Bon, on a compris que c'était pas le tour de chauffe, et vous avez bien fait, parce que vu le temps qui reste, maintenant, c'était Mathilde Serrel de parler de ce disque de Kim Gordon.
Ah oui, un conseil pour garder la jeunesse éternelle, restez punk.
Oui, ne pas tousser.
Ne pas s'étouffer comme Philippe Azoury. Non, mais
c'est
elle a une radicalité qui est vraiment sa résistance au temps. Et c'est un disque, on parlait de disque de résistance tout à l'heure pour celui de Nick Cave, ça s'applique aussi à celui de Kim Burden. Moi, je trouve qu'elle, en fait, elle nous libère de toutes les images préfabriquées, justement, du monde moderne. Et c'est vrai que cette anti-Silicon Valley, anti rêve technophile et même rêve un peu New Age, parce que le yoga en prend pour son grade.
Oui, il y a ça aussi.
Dans le dernier titre.
Le yoga.
Donc, il y a un petit peu ces espèces d'Everest de la modernité et aussi un peu du transhumanisme aussi qui sont décrassés, déchirés par les titres les uns après les autres. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement sexuel. Moi, je trouve que le titre Cookie Butter, qui est dans la poésie, on parlait des textes tout à l'heure, du travail sur les textes, c'est génial. C'est une litanie de verbes à l'infinitif. De verbes à la première personne. I saw, I knew, I remember, I fuck, I pretend, I protect. Ça monte comme ça, jusqu'à cette espèce de cookie butter qui a un peu rien à voir avec l'histoire, qui est l'apothéose de la sexualité, à moins qu'on y, évidemment,
associe. Projetez ce que vous voulez dans ce cookie butter.
Il faut voir quand même que toutes les structures de tous les titres de Kim Gordon ne sont pas prévisibles. Mm. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que, sorti de cette énumération, on pourrait penser qu'il y a un point d'orgue qui est le cookie butter, et on comprend enfin, dans une espèce de rage absolument sexy, que c'était ça qu'elle désirait très fort, à se toucher les tétons, si je traduis bien le texte. Et pas du tout, puisqu'après, dans la deuxième partie, on explore encore autre chose. Et c'est ça que j'aime, c'est que on parlait de dans la comparaison littéraire tout à l'heure, c'est vraiment un écrivain musical, Kim Gordon, en tout cas, dont on ne connaît pas la suite de la phrase. On ne peut pas la deviner, c'est pas le T9 de votre téléphone qui écrit à votre place, et c'est pas non plus tout ce que vous pourriez T9. Mettre en place en termes de souvenirs musicaux pour compléter. Non, il faut suivre jusqu'au bout chaque titre pour voir où elle va et pour l'apprécier. Et ça, rien que ça, c'est une œuvre de résistance aujourd'hui extrêmement réussie.
T9, effet madame, garanti pour moi.
Bien sûr. Et modem 56K aussi. Ouais. J'ai un petit musée techno comme ça.
Je regrette mon StarTAC. Philippe Azoury.
On est tous d'accord, donc c'est plus la dispute, c'est les accords de Yalta.
On ne sait pas ce qu'on partage. Enfin,
je suis pas sûr qu'ils étaient tout à fait d'accord à Yalta, mais enfin, c'est une autre question. Bon, on a dit qu'on ne faisait pas de géopolitique ce soir.
Pas de géopolitique ce soir. ce soir.
Philippe, il reste une minute.
Sur le Kim Gordon, on a... Comment elle fait pour réussir? Et c'est même plus une question d'âge. Pour réussir tout court, que ce soit si ce disque était sorti en 82 ou il est sorti là, il y a 15 jours. Un disque où il y a à la fois une absence totale de centre, c'est-à-dire de colonne vertébrale, c'est-à-dire que les morceaux, Mathilde l'a très très bien dit, enfin, que ce soit dans les textes ou dans les compositions, peuvent se permettre tout. C'est-à-dire qu'il y a ça n'est plus centralisé autour de la pop song. Et en même temps, conserver cette tension sexuelle dont Mathilde aussi parlait, qui fait que le disque est d'une rage et d'une unité, alors qu'il pourrait être à peu près tout et n'importe quoi, des vagues incantations sur un peu de bruit. Sonic Youth l'a aussi fait quand il savait plus trop quoi faire. Enfin, voilà. Comment elle fait pour garder ça? Tout en se réinventant, aucun morceau ne sonne pareil. Il n'y a pas deux morceaux qui se ressemblent. Il n'y a pas deux morceaux qui ne cherchent dans la même direction. Il y en a un qui m'étonne sans arrêt qui s'appelle Don't Play It. Parce qu'il est, en termes de rage, de colère, il est équivalent à ce qu'un groupe aujourd'hui anglais comme Giant Swan, qui globalement ce qui se fait de plus violent, de plus brutal sur la planète, peut produire. Elle rivalise avec ça. Earthquake, elle retrouve à peu près tout ce qu'on aimait chez Sonic Youth. Get Your Life Back, c'est complètement incroyable dans l'improvisation. Comment elle fait pour que ça tienne en unité, ça tienne de la magie? Je sais pas pourquoi elle a attendu 10 ans avant de mettre son nom.
Sur un album.
C'est presque ça ma seule interrogation, parce que je suis étonné. J'ai l'impression d'être à la fois à New York en 1982 avec Richard Prince, et effectivement on est dans la scène de Los Angeles, la scène américaine. On est aussi avec quelqu'un, j'ai l'impression que ça dialogue avec les livres de Chris Cross, qui elle aussi a quitté New York pour Los Angeles. De figures de femmes, comme ça elles se ressemblent un peu d'ailleurs. Enfin voilà, très sexuelle, très énergique.
I love Dick.
Il y a un vrai dialogue qui s'installe à la fin du disque. On a l'impression, enfin, le début est abstrait et elle dialogue à la fin. Pardon.
Pardon, parce que c'est l'heure et qu'il faut dire que Noam Records, le record de Kim Gordon, est sorti chez Matador. On conclut l'émission avec le jeu de la dispute et vu l'heure, on va se concentrer sur le jeu de ce soir en oubliant celui d'hier. Ce soir, on fait gagner des invitations pour les Utopiales, festival international de science-fiction qui a lieu à Nantes du 31 octobre au 3 novembre. Il y aura pas mal d'émissions de France Culture là-bas d'ailleurs cette semaine. La question, David Dana.
Quel est le thème du festival 2019, les Utopiales?
Je crois que c'est Mathilde Serène le thème. Non, c'est pas ça. Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et David Danas. Prise de son ce soir, Anthony Thomasson, réalisation Émilie Vallard. Rendez-vous demain à 19h, dispute art plastique avec Corinne Rondeau, Sally Bonne et Sarah Hillermeyer. On parlera de Léonard de Vinci, Kiki Smith et Ugo Rondinone.